20 ans se sont écoulés depuis l'arrestation de l'éventreur du Yorkshire. Un nouveau tueur sévit dans le nord de l'Angleterre et les victimes sont des femmes transpercées par des carreaux d'arbalète. Pour Mark Burstein, promu au grade de superintendant, le cauchemar recommence. Il a cependant un atout, l'inspecteur Clarence Cooper, un jeune flic aussi obsessionnel que lui. La police n'a pas le droit à l'erreur et pour stopper le meurtrier, Cooper est prêt à tout, même à devenir quelqu'un d'autre. C'est par les regards d'un tueur naissant dans l'ombre de l'éventreur du Yorkshire et des deux enquêteurs chargés de l'arrêter que l'auteur Michael Mention va égrener une actualité angoissante qui colle littéralement à la peau des protagonistes de ce polar « Adieu demain ». La peur et la manipulation sont les principaux ingrédients de ce roman qui nous fait voyager dans le Yorkshire de 1969 à nos jours. Avec sa structure littéraire si particulière et précise comme un scalpel, tant sur le fond que dans la forme, l'auteur propose un roman aux atouts indéniables. En faisant preuve d'une grande maîtrise à chaque étape de son roman, Michael Mention confirme encore une fois qu'il faut compter sur lui dans le paysage du roman noir. Je l'ai rencontré sur la 13e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras organisé par l'association Colère du Présent pour évoquer avec lui de manière psycho-sympathique son roman et son univers très noir.
Michael Mention, alors donc, Salon du Livre Arras, c'est ton premier apparemment?
Oui, mon premier, je suis très content d'être ici, j'étais justement en train de dire que le coin était très sympathique.
Adieu demain. Donc où on suit l'histoire de deux flics qui sont confrontés à un serial killer et notamment les aventures d'un inspecteur Clarence Cooper qui est prêt à tout justement pour pouvoir le choper. Il y avait déjà un premier volet qui était pas loin de ça avec l'un des flics protagonistes.
Exactement, le premier volet est la stricte retranscription d'une enquête qui s'est déroulée entre 75 et 81 dans le nord de l'Angleterre. Une enquête sur les crimes du serial killer Peter Sutcliffe qui a tué 13 femmes en 6 ans et qui a tenu toutes les forces de police anglaises en échec pendant cette période-là, pendant la période de crise consécutive au choc pétrolier. Ce roman se situe avant, pendant et après Thatcher, enfin son règne on va dire. Voilà, donc c'est vrai que Saletant pour le pays, le premier volet était vraiment la stricte retranscription de cette enquête et la suite, Adieu demain, est beaucoup plus fictive. Elle se base sur un fait divers réel, mais le bouquin est différent parce que voilà, il est hors de question de d'écrire un Saletant pour le pays 2.
Alors pas mal de serial killer dans vos bouquins, c'est une sorte de marque de fabrique?
Alors non, pas du tout. J'ai commencé d'ailleurs par écrire du fantastique et de l'espionnage. Des huis clos ou plus de la politique fiction car je suis avant tout passionné d'histoire ou de géopolitique. Tout ce qui m'intéresse au sujet des serial killers, c'est touche plus à la culture du pays dont ils sont issus et au contexte de l'époque. Si j'ai fait un livre sur Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire, donc Saletant pour le pays, c'est avant tout parce qu'il se passe pendant les années 70 et que c'est pendant le contexte que j'évoquais, à savoir la crise, la montée de l'extrémisme, la corruption des forces de police en Angleterre à cette époque-là. Et ça me permettait aussi de parler des conditions de travail et surtout malheureusement de licenciement des mineurs dans le nord de l'Angleterre. Donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est on va dire la thématique criminelle est avant tout un moyen pour moi pour prendre la température d'un pays ou d'une époque particulière.
Dans Adieu demain, il y a pas mal de personnages qui évidemment sont un peu, on va dire, suspectés d'être l'assassin. Et en même temps, ils sont confrontés aussi à des phobies et des peurs. C'est aussi quelque chose de récurrent.
Je suis un arachnophobe. J'ai fait des progrès, notamment en écrivant ce livre. De toute façon, je pars du principe qu'on vit dans une société qui est profondément sclérosée par la peur, par toutes les peurs. Bon, alors le libéralisme, l'ultra-libéralisme fait beaucoup de mal par rapport à ça. On a peur de perdre son job, on a peur de ne pas en retrouver un, on a peur d'être considéré comme trop vieux sur le marché du travail, la peur de rater ses examens, la peur de décevoir ses proches, la peur de se prendre un râteau face à une fille aussi. C'est-à-dire que les sociétés occidentales fonctionnent énormément sur la peur et sur les tabous, le tabou de la mort par exemple. On n'est pas du tout comme en Inde par exemple, où cette question-là n'est pas du tout fermée comme chez nous. La mort dans ces pays-là, fait partie intégrante de la vie. Nous ici, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de clivages, on vit dans des sociétés d'opposition en permanence, on oppose les hommes aux femmes en permanence, les hétéros aux homos, les musulmans aux juifs, les chômeurs aux travailleurs, enfin, on vit dans une société qui nous parle en permanence de bien, de mal, d'ennemis, on nous désigne des bons, des méchants, et tout ça, c'est de la peur. Et la peur, à mon sens, est fabriquée par les médias qui ont une énorme responsabilité dans ça, les médias télé essentiellement, et puis ben, encore une fois, le libéralisme qui fabrique de la peur en permanence, et voilà. Lord, my path has gone astray. I'm just trying to find my way. Wandered here from far away. I'm just trying to find my
Comment vous l'avez travaillé alors ce personnage Clarence Cooper? Parce que au commencement il arrive, c'est presque avec timidité, après bon ben il s'installe un peu plus dans son rôle de flic, sans vouloir dévoiler la fin, après ça part complètement en vrille.
C'était le but. Clarence Cooper est effectivement un flic qui a des couilles, on peut le dire comme ça, et en fait sa mission consiste à infiltrer une thérapie de groupe fondée sur le traitement des phobies, parce qu'en fait il soupçonne l'un des patients de cette thérapie de groupe d'être l'assassin. Donc, sous couvert d'une fausse identité, il part en mission, il infiltre cette thérapie de groupe en se faisant passer pour un arachnophobe. Et moi ce qui m'intéressait, c'était de voir dans quelle mesure quelqu'un qui ne souffre d'aucune phobie particulière peut, en côtoyant au quotidien les phobies de gens. Donc il faut bien savoir que la phobie, c'est pas juste avoir peur de quelque chose. La phobie, ça touche à la peur panique. Quelqu'un qui est par exemple un agoraphobe, c'est quelqu'un qui peut faire un malaise quand il est dans le métro. Ou un arachnophobe, ce que j'ai connu il y a quelques années, c'est quelqu'un qui peut partir en courant parce qu'il est vraiment pétrifié, tétanisé. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir dans quelle mesure, à force de côtoyer au quotidien des gens qui souffrent de phobie et qui expriment leur souffrance au plus profond, comment quelqu'un qui n'est pas phobique à la base serait susceptible de contracter cette phobie-là comme une sorte de virus invisible. Et c'est évidemment tout ça relève de la métaphore, de ce sentiment de peur généralisé qui, à mon sens, découle, je pense essentiellement depuis les attentats du 11 septembre en 2001, on nous a fabriqué un ennemi qui est le musulman, qui serait soi-disant, c'est musulman égal terroriste. Et je trouve ça vraiment insupportable. Heureusement, je ne suis pas le seul. Et c'est vrai que ce sentiment de peur dans lequel on nous entretient en permanence, à travers les médias encore, ou certaines discussions, certains faux débats qu'on voit à la télé, ou certains politiciens qui récupèrent tout ça, on nous entretient dans ça. Et malgré nous, on peut être susceptible de glisser vers une certaine paranoïa envers un voisin, un ami, ou se poser des questions, et c'était ça qui m'intéressait.
Tu me parlais tout à l'heure de la façon dont Clarence voyait les choses, de la métaphore également, et je trouve que tu as une façon de décrire l'arachnophobie justement avec une écriture assez acérée et très précise, et en même temps, j'irai peut-être dire jusqu'à presque de la science-fiction. Comment tu fais? Alors, tu m'as dit que tu étais arachnophobe toi aussi, également? Donc tu tires ça de toi-même?
Ah ben oui, par exemple, en ce qui concerne le chapitre 3 dans le roman, lorsque le personnage principal qui est enfant se retrouve avec deux énormes araignées au-dessus de son lit, c'est précisément quelque chose que j'ai vécu quand j'avais 4 ans en colo, des araignées de campagne avec des couleurs pas possibles, des boutons, des poils, enfin vraiment le cauchemar absolu, surtout quand on a 4 ans. C'est évidemment quelque chose qui m'a marqué, mais je veux dire, enfin, bon, c'est de l'ordre du traumatisme. Toute proportion gardée, il ne s'agit pas d'un viol ou autre, mais ça m'a profondément marqué, donc c'est clair que j'ai mis beaucoup de moi dans ce livre. Par rapport à Clarence, effectivement, enfin par rapport à la description textuelle des araignées, ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la littérature telle qu'elle nous est enseignée à l'école, on part toujours du principe que la phrase a le monopole du sens. Moi, je pense qu'en fonction de ce qu'on veut exprimer, un seul mot peut parfois être beaucoup plus efficace qu'une phrase. Je vous donne un exemple. Si on parle d'enfants qui se sont fait violer, on peut très bien dire dans un livre que c'est une injustice terrible, etc., etc. Pour moi, c'est tellement horrible, c'est tellement extrême que pour moi c'est de l'horreur, point. C'est un mot peut suffire parfois à exprimer toute une image. C'est vrai que je revendique une écriture très visuelle, parce que j'ai d'abord commencé par dessiner, par faire des bandes dessinées quand j'étais ado. Donc je pense que ça vient de là, j'ai effectivement ce souci en permanence de trouver le mot juste, je ne suis pas le seul évidemment, mais je pense qu'en fonction de ce qu'on décrit, si l'action est brutale, en l'occurrence la peur, le mécanisme de peur, tout ce qui s'opère dans le cerveau par rapport à l'hypothalamus, ce que je décris dans le livre, tout ça va très vite. C'est même pas de l'ordre de la microseconde, c'est vraiment extrêmement furtif. Donc c'est hors de question de décrire ça par des phrases extrêmement longues et hyper détaillées. Je pense qu'il faut que le lecteur vive l'émotion du personnage au rythme du personnage, justement. Donc il faut que ça claque, il faut aller au plus près de l'os, il faut aller au plus profond de l'action qu'on veut décrire.
Et donc, est-ce que toi aussi, tu as éventuellement suivi une thérapie ou alors tu as fait des recherches pour ta phobie ?
Je n'ai fait que des recherches. Non, je n'ai fait aucune thérapie parce que c'est toujours pareil. Bon, bien sûr, voilà, je me suis beaucoup documenté. J'ai rencontré notamment le docteur Christophe André qui officie à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, qui s'occupe notamment du traitement des phobies, pas que ça, mais notamment. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il a relu ce que j'avais écrit suite à l'assimilation des informations que j'avais trouvées dans ses livres, qui m'a confirmé qu'effectivement j'avais tout compris, suite à d'autres bouquins aussi. Je n'ai suivi aucune thérapie parce qu'en fait quand on est arachnophobe, on a évidemment beaucoup plus peur des énormes migales que des toutes petites araignées. Or, des énormes migales, il n'y en a pas en France. Donc je bénéficie, on va dire, du fait d'habiter en France et de ne pas être confronté en permanence à des migales. J'habiterai en Guyane, je pense que j'aurais fait un infarctus depuis longtemps.
Dernière question, tes bouquins sont parus chez Rivage Noir, alors je vais pas te demander ce que ça te fait d'être chez Rivage Noir, comment ça s'est passé cette rencontre ?
Alors j'écris depuis 2001, j'ai écrit plusieurs romans et je n'avais jamais osé contacter Rivage Noir, pour moi c'était tellement impossible. L'éditeur d'Elroy, Thompson et compagnie, je me dis qu'est-ce qu'ils vont faire ? Elroy, Thompson, Michael Mention, chercher l'erreur. Et puis j'ai fait ce bouquin sur Peter Sutcliffe, Sale temps pour le pays, et je me suis dit, écoute, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai envoyé le courrier, et je me souviens très bien du courrier que j'avais envoyé, c'était « Bonjour, par la présente je vous envoie le manuscrit, je ne me fais pas d'illusions, mais comme ça, sur mon lit de mort, je pourrais toujours me dire que j'ai tenté ma chance. » Et j'ai reçu le coup de fil de Jeanne Guyon, avec laquelle j'ai l'honneur de travailler les textes à chaque fois. Et elle m'a appelé, elle m'a dit que le bouquin était pris. J'ai dit ok, c'est cool, j'ai raccroché et je l'ai rappelé pour être sûr qu'il s'agissait bien de Michael Mention et que c'était pas un Jean-Michel Mention. Alors maintenant, Rivage Noir, moi c'est très important, c'est la notion de filiation est très importante pour moi. Rivage Noir, c'est les auteurs que je citais, c'est François Guérif. À travers François Guérif, c'est Jean-Pierre Melville, c'est Eastwood, c'est Manchette, c'est tout ça. Et moi, je suis très attaché à cette culture-là qui touche aux années 50, 60, 70. C'est le cinéma de Noiret, c'est encore une fois le cinéma de Clouzot, Melville, que j'ai cité, Jacques Doré. Voilà, c'est toute une culture dont je me réclame et qu'on est quelques-uns vraiment à remettre au goût du jour, et je suis très content de ça, pour justement sortir des thrillers racoleurs qu'on voit un petit peu trop et qui sont trop sanglants à mon sens, et revenir à du vrai roman noir qui est pudique, mais la pudeur n'empêche pas la profondeur, et surtout du social, c'est ça. Et moi, le roman noir, ça cristallise le discours social.
Ton prochain polar ou ton prochain livre, je sais pas si ça va être un polar, mais j'imagine que oui, tu peux peut-être nous dévoiler quelques petites pistes.
Alors, je ne peux pas tout vous dire malheureusement, voilà, c'est pas pour faire un petit suspense de petit polar 2, mais ce qui est sûr, c'est que le troisième volet de la trilogie sortira bien évidemment chez Rivage, d'ici un an, je pense. Ce qui est sûr, c'est que j'ai à cœur de me renouveler en permanence pour justement ne pas m'encrouter dans des histoires policières, donc c'est pour ça que je fais aussi de l'espionnage, du fantastique, et mon prochain roman qui sortira chez un autre éditeur sera très différent de ce que j'ai proposé jusqu'à présent, et j'ai hâte de le partager avec les lecteurs.
C'était un entretien avec Michael Mention, auteur du livre « Adieu demain » publié dans la collection « Rivage noir ». Il était invité sur le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, 13e édition, organisée par l'association Colère du Présent.
I'm limited by time, by gravity, by all these physical forces, when really I just, I wish my consciousness could be liberated, completely free, to go everywhere, to be everywhere, to do everything, to be everyone that I've ever dreamed of being.
A little more. Outside, yes. I know that there's someone that understands me.